Voilà, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. On ne va pas lire l'histoire de la Samaritaine, mais l'histoire qui suit directement après. C'est dans Jean 4, versets 45 à 54. Jean 4, 45 à 54. Lorsque Jésus arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. »« Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent là à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit !» Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et lui dirent « C'est hier, à 1 heure de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit !» Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Alors la semaine dernière, on avait vu le premier signe que Jésus a fait. Vous vous rappelez? Le premier signe que Jésus a opéré devant ses disciples. On a vu que ce signe servait avant tout à conforter la foi des disciples. Ils avaient commencé à croire en lui, qu'il était le Messie, mais ils n'avaient encore eu aucune preuve, aucune démonstration qui manifesterait que Jésus est bien le Messie. Et donc Jésus a fait ce miracle des noces, pendant les noces à Cana, il a changé l'eau en vin. Et il a dit que ses disciples virent sa gloire et crurent en lui à ce moment-là. Les signes que Jésus fait ont pour objectif d'attester qu'il est bien le Messie. Ce sont des signes que seul Dieu peut faire. Changer la nature d'une chose, changer l'eau en vin. L'apôtre Jean, donc, quand il écrit son évangile à la fin, je vais relire, il dit pourquoi il a écrit cet évangile. Jésus, dit-il, a accompli en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean a écrit son évangile pour un but, dans un but très précis. Il veut fournir au lecteur de l'évangile, de son évangile, toutes les preuves qui attestent que Jésus est bien le Messie. La foi que Jésus demande de nous n'est pas ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Vous savez ce que c'est la foi du charbonnier? Non, vous ne connaissez pas cette expression. C'est une croyance naïve, sans preuve ni critique, où on nous demande de croire simplement, sans raison. Jean nous dit plutôt ceci, « Lisez mon évangile, regardez ce qui est écrit au sujet de Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et tirez vous-même la conclusion. » Les preuves ne sont-elles pas apportées dans tout l'évangile que Jésus est bien le Messie, promis par Dieu. Qui d'autre réunit dans sa personne les qualités et les actes qui démontrent qu'il est bien le Fils de Dieu, le Messie. Personne d'autre. Pour nous convaincre que Jésus est bien le Messie, Jean a, on peut dire, construit son évangile d'une manière particulière, différente de tous les autres. Jean s'est concentré sur deux choses. Il a voulu d'abord rapporter les paroles de Jésus au sujet de qui il est. Il y a sept « je suis » dans l'évangile de Jean qui attestent de manière forte l'identité de Jésus, qui il est vraiment. Et puis il y a aussi sept signes qui démontrent qui il est. Pas simplement des paroles, mais des actes. Et nous sommes en train d'étudier ces sept signes. Je vais rappeler simplement les sept « je suis » d'abord que Jésus a affirmé, prononcé sur sa personne. On pourrait facilement passer des heures hein, sur chacun des « je suis », on ne va pas le faire. Je vais simplement énumérer ce que Jésus a dit au cours de l'évangile de Jean, au long de l'évangile de Jean. Et quand on écoute ces sept « je suis », il n'y a que deux conclusions possibles. Soit Jésus est l'homme le plus vantard qui ait existé, le plus prétentieux, soit il est réellement ce qu'il a dit. « Je suis le pain de vie, dit-il. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis la nourriture qui donne la vie, le pain de vie. Je suis la lumière du monde. » C'est dans Jean 6, 35, le pain de vie. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais au contraire, il aura la lumière de la vie. » Dans Jean 8, verset 12. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la voie du salut. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 11. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Le dernier « je suis le vrai cep » qu'on a lu tout à l'heure. Vous êtes des sarments. À côté des affirmations de Jésus, et on pourrait dire qu'elles sont provocantes, osées, ces affirmations, et nous ne serions pas tenus de les croire s'il n'y avait pas à côté les sept signes qui démontrent que Jésus est bien le Messie. On le verra tout à l'heure, Jésus a fait beaucoup de miracles, mais il y a sept signes particuliers qui sont des signes significatifs de quelque chose, qui apportent une preuve encore supplémentaire par rapport aux autres miracles. C'est pour ça que Jean les a sélectionnés et les a appelés des signes, parce que personne, mis à part Dieu, n'est capable de faire ce que ces signes manifestent. On l'a vu déjà la semaine dernière avec l'eau changée en vin, le changement de nature de quelque chose. L'eau changée en vin nous a parlé du pouvoir créateur de Jésus et même du pouvoir recréateur. Jésus peut transformer en une seconde nature quelque chose qui a été fait d'une certaine façon. Il peut changer un pécheur en un saint. Il a dit de Simon, « Tu es Simon, fils de Jonas, je ferai de toi Pierre. » Il a changé Saul de Tarse, persécuteur, pour en faire un apôtre de Jésus-Christ. C'était le sens du premier signe. On va voir ici maintenant le second signe, comme il est écrit au verset 54 qu'on a lu, « Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. » L'occasion de manifester le second signe est donnée par Jésus au travers d'un homme, un père angoissé qui vient faire une demande à Jésus au sujet de son fils qui est malade. Ce père n'est pas n'importe qui, c'est un officier, il est dit royal, quelqu'un qui sert le roi de l'époque, Hérode Antipas, qui était le roi des Juifs à l'époque du récit. Cet homme a entendu parler de Jésus. Il ne vient pas de Cana, mais de Capernaum. Capernaum, une ville qui se trouve à 25 km de Cana. Au moment donc, où se situe le récit, Jésus est retourné, il est dit, à Cana, au verset 46, là où il y avait eu le premier miracle. Cet homme a entendu parler des miracles que Jésus a fait à Jérusalem. Mais ces miracles n'ont pas la valeur de signe, comme ici, parce qu'il est parlé ici du deuxième signe miraculeux que Jésus est venu faire, que Jésus va accomplir. Donc les signes, c'est quelque chose de particulier. Ça se distingue des miracles que Jésus fait en général. Ils ont une valeur supplémentaire. L'homme a parcouru 25 km et on peut vraiment penser que cet homme était très angoissé pour son fils pour parcourir une telle distance. Alors pour nous, bien sûr, c'est pas difficile, hein, prendre la voiture et on met une demi-heure, mais cet homme a dû marcher et parcourir vraiment 25 km pour rencontrer Jésus. Quand il est devant Jésus, il ose demander à Jésus une démarche qui va lui coûter. Il demande à Jésus de venir faire avec lui les 25 km de retour pour rencontrer son fils. Parce que dans sa pensée, la guérison ne peut se faire que si Jésus est sur place. Il a vu Jésus faire des miracles, il a entendu Jésus en tout cas, que Jésus faisait des miracles et qu'il au contact des malades, il les guérissait. Il a déjà foi en la capacité de Jésus de guérir son fils. Mais Jésus va lui demander quelque chose de plus, un surcroît de foi, on peut dire. Il va lui demander de croire que par sa parole, simplement, son fils peut être guéri. Et c'est là le deuxième signe, en fait, miraculeux que Jésus va donner, va manifester dans l'évangile de Jean. La réputation de Jésus, d'après Matthieu, elle était faite parce que Jésus guérissait tous les malades qu'on lui apportait. Dans Matthieu 4, 24, il est dit, la réputation de Jésus gagna toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés. Jésus les guérissait tous. Effectivement, Jésus guérissait tous ceux qu'on lui apportait. Mais on n'avait pas encore vu Jésus guérir à distance quelqu'un par sa simple parole. Et c'est ce que Jésus va demander à cet officier. Il va lui demander non seulement de croire qu'il peut guérir son fils en allant sur place, mais de croire que sa simple parole suffit pour qu'il le guérisse, même à distance, même s'il n'y a pas de contact entre lui et son fils. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est dit que cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Cet homme crut. Le signe que Jésus est vraiment le Messie et qu'il est Dieu, c'est que sa parole a l'autorité de celle de Dieu. Jésus n'a pas besoin d'être sur place comme un médecin, un guérisseur ou même un prophète. Le pouvoir de la parole de Jésus est un pouvoir qui se manifeste à distance. Il suffit que Jésus dise quelque chose pour que la chose s'accomplisse. L'officier royal va donc, sur la parole de Jésus, repartir sans Jésus et s'apercevoir en arrivant sur place qu'effectivement, la parole de Jésus s'est accomplie. À peine est-il arrivé que ses serviteurs viennent à sa rencontre et lui disent « Ton fils vit !» L'officier demande à quelle heure, à quel moment, son fils s'est relevé de sa maladie et ils lui disent l'heure à laquelle Jésus a prononcé la parole. La parole de Jésus avait autorité pour guérir cet homme à distance. Alors, quels enseignements ce miracle a-t-il pour nous? Le premier, et je crois que c'est important, c'est ce qu'on vit aussi dans notre vie. Pour que Jésus agisse, la distance n'a aucune importance. C'est le premier enseignement. La parole de Jésus a agi sur un homme qui était à 25 km de lui. Mais il est évident que si cet homme se trouvait à 50, 100 ou 1000 km, c'était la même chose. Dieu est présent partout. Sa parole peut agir n'importe où. Et nous devons nous rappeler de cela, c'est que la parole de Dieu, la présence de Dieu, les distances n'existent pas pour Dieu. Sa parole et sa présence peuvent agir ici, maintenant. C'est une bonne nouvelle pour nous, parce que peut-être aussi dans notre cœur, il se peut que nous nous sentions loin de Dieu. Est-ce que Jésus peut me rejoindre là où je suis, dans la souffrance dans laquelle je suis, dans la dépression, dans la captivité dans laquelle je me trouve, dans la fosse où je suis maintenant? Le miracle qui est opéré ici nous manifeste, témoigne que Jésus peut nous rejoindre n'importe où, quel que soit le lieu et la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il se peut que nous n'ayons pas de force pour venir vers Jésus. Le Fils ne pouvait pas se lever, c'est le Père qui allait à sa place. Mais ce n'est pas un problème pour Jésus pour rejoindre ce Fils, là où il est couché, paralysé, au bord de la mort. La parole de Jésus, quand elle est reçue, quand elle est envoyée, elle délivre, quelle que soit la situation, la distance qui pourrait exister entre lui et celui qu'il veut guérir. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains que Dieu est venu pour sauver des personnes qui étaient sans force. Alors que nous étions encore sans force, le Christ est venu. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous sauver. Notre état n'entre pas en ligne de compte. Notre situation. Est-ce qu'il faut avoir une certaine force, une certaine vitalité pour oser s'approcher de Jésus? Non. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui nous approchons de Jésus, c'est Jésus qui s'approche de nous et qui vient là où nous sommes. Il ne suffit que d'un mot. Et ce que Dieu demande pour nous sauver, c'est que j'accueille la parole que Jésus me donne. Viens, viens tel que tu es. Crois en moi, empare-toi de cette promesse que je te fais, je peux te sauver maintenant. Ésaïe 57, 15 nous dit ceci. Voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté. Je suis inaccessible. Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. De nous-mêmes, personne, que nous soyons en bonne santé ou pas, hein, moralement, physiquement, psychiquement, de toute façon, nous ne pouvons pas aller vers Dieu. L'habitation de Dieu est une habitation élevée. J'habite dans les hauteurs et la sainteté. Mais je suis au chevet de l'homme brisé et abattu, afin de le relever. Notre Dieu est un Dieu qui se rend proche de nous. Il se tient au chevet des malades, des hommes qui n'ont pas de force. Alors peut-être ce matin, je suis dans ce cas. J'essaye par mes efforts d'atteindre Dieu, de le rejoindre. Dieu me dit, mais ne fais rien, c'est moi qui viens vers toi, accueille-moi. Repose-toi sur moi, repose-toi sur ma parole, ce que je dis, la promesse que je te donne. Prends-la pour toi, et c'est moi qui vais agir en toi. Dans Jérémie 23, verset 23, Dieu pose cette question. Ne suis-je un Dieu que de près? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Il dit cela à un moment où Israël était loin de Dieu, justement, en déportation. Est-ce que vous pensez que je suis près de vous seulement quand vous êtes près de moi? Est-ce que je ne peux pas être près de vous même quand vous êtes loin? Notre Dieu est un Dieu de grâce, c'est lui qui fait toujours le premier pas. C'est lui qui s'approche de nous. Et il nous demande simplement de nous appuyer sur lui, de croire en sa bonté. Le premier enseignement, donc, qu'on peut retenir, c'est que la distance, qu'elle soit physique, morale ou spirituelle, ne représente pas un obstacle à l'action de Jésus dans nos vies. Il n'attend pas que nous soyons forts, que nous ayons quelque force. Il faut simplement qu'on vienne comme on est. Et lui agit dans nos vies. Une deuxième chose qu'on apprend, c'est que c'est dans la parole de Jésus que se trouve la puissance de restauration, de transformation, qui lui permet d'être efficace. Jésus est la parole, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas besoin de venir? Parce que sa parole suffit. Elle a la même force. Et d'ailleurs, dans les évangiles, Jésus ne cesse de louer ceux qui croient simplement, sans voir. Ceux qui le prennent au mot. On va lire un deuxième exemple dans Matthieu 8, versets 5 à 13. Je pense que vous connaissez ce texte aussi, il ressemble beaucoup à l'histoire qu'on a lue. Matthieu 8, 5 à 13. C'est aussi à Capernaum. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain, cette fois-ci, l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Cette fois, c'est Jésus qui est prêt à se déplacer. Mais l'officier répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi je suis un homme, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, pars et il part. Un autre vient et il vient et à mon esclave, fais ceci et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi, qu'il en soit fait selon ta foi. » Et au même moment, le serviteur fut guéri. Ici, on a un deuxième exemple d'un homme qui a cru sur parole Jésus. Et il y a quelques nuances avec le récit précédent. Il est parlé de ce qui a fondé la foi de cet homme, ce qui lui a permis de croire justement que Jésus avait ce pouvoir de guérir son fils, son serviteur, par sa parole. Eh bien, cet homme, il avait l'habitude d'utiliser la parole pour commander. C'était un gradé. Et il savait que quelqu'un qui possède une autorité a le pouvoir de commander, de dire des choses qui sont ensuite exécutées. Parce qu'il était officier, il lui suffisait de dire à un soldat « pars » et le soldat partait, ou « vient » et il venait. L'officier savait que sa parole n'était pas comme celle des autres. Elle exprimait son autorité et le rang qui était le sien. Et finalement, en disant à Jésus « ne te déplace pas », il te suffit de dire, eh bien, il attestait qu'il reconnaissait en Jésus une autorité semblable à celle de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, tu n'as même pas besoin de venir. Il te suffit de dire les choses. Et Jésus dira, et l'officier vivra, la guérison de son serviteur. Une grande foi, qu'est-ce que c'est une grande foi ? Parfois on dit, Seigneur, augmente ma foi. Eh bien, Jésus nous le montre. Une foi qui fait l'admiration de Jésus, c'est une foi qui prend Dieu au mot, simplement. Il te suffit de dire quelque chose et je le crois. Et ça s'accomplit. C'est une foi qui est à la portée de tous. Pas simplement de l'élite religieuse de l'époque, au contraire, qui n'a pas cru. L'officier n'était pas juif, il était romain. Mais même s'il n'avait pas une culture biblique forte, il savait, il avait compris quelque chose. C'est que l'autorité permet que la parole s'accomplisse. Si quelqu'un a une autorité, il lui suffit de dire les choses. Et si nous reconnaissons que Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu, eh bien nous pouvons prendre sa parole telle qu'elle est, et elle s'accomplit. Je vous rappelle ce que Jean a dit. « Tout ce que je vous ai écrit au sujet de Jésus l'a été, afin que vous croyiez, simplement. » L'important n'est pas la grande foi, mais c'est la personne de Jésus. Si je comprends qui est Jésus, alors je peux connaître sa puissance dans ma vie. La foi est impossible pour qui n'a pas reconnu en Jésus le Seigneur, le Fils de Dieu. Mais elle peut être active et puissante dans la vie de celui qui le reconnaît. Tous les évangiles, tous les témoignages qui nous sont rapportés dans les évangiles ont un objectif, c'est de nous montrer l'autorité de Jésus et de sa parole. Et on pourrait parcourir les évangiles et voir dans plein d'exemples le pouvoir de la parole de Jésus. Je vais juste en citer trois. Ce sont des exemples que vous connaissez. Alors que les disciples traversaient la mer et que s'élevait une grande tempête qui aurait pu les détruire, renverser leur barque, Jésus dormait. Les disciples vont réveiller Jésus et il suffira d'un seul mot pour calmer la tempête, les éléments déchaînés. Les disciples savaient qui était Jésus, mais ils étaient de nouveau stupéfaits devant l'autorité de la parole de Jésus. Qui est-il, celui-ci, qui commande même au vent et à la tempête? Alors que Jésus marche sur l'eau à la rencontre des disciples, il cherche à les rassurer en leur disant « C'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui dira « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Pierre a compris que si Jésus donne un ordre, eh bien, une chose qui était impossible peut devenir possible. Il a déjà appris Pierre dans sa foi, ici. Et Jésus ne dira qu'un seul mot à Pierre, « Viens !» Pierre est sorti de sa barque, il a marché sur l'eau pour aller vers Jésus. Un seul mot. Et puis le troisième exemple se trouve dans l'évangile de Jean. C'est peut-être l'exemple le plus fort. Alors que Lazare est dans son tombeau depuis 4 jours et qu'il sent déjà, son corps est en train de se putréfier. Marthe lui dit, mais il est en train de se décomposer. Tu ne peux pas faire cela. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus ordonne à Lazare un seul mot, sors. Et le mort sort, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. C'est dans Jean 11. Ce que Dieu me demande aujourd'hui, Jésus n'est plus physiquement avec nous. Il y a peu de chances que l'un d'entre nous puisse être touché par la main de Jésus directement. Mais la parole de Jésus est la même. Par sa parole, Jésus chasse les démons, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il apaise les éléments déchaînés. Surtout, il te garantit à toi, si tu crois, que tes péchés peuvent être pardonnés. Crois la parole simple de Jésus. C'est là que commence la foi. Crois ce qu'il dit. Prends-le pour toi, comme si c'était qu'à toi. Il déclare que si tu mets ta confiance en lui, si tu crois qu'il est mort pour toi, pour tes péchés, tu es devenu juste. Tu rentres dans la famille de Dieu. Tu as la vie éternelle dès à présent. La foi, dit Paul, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi naît de la parole. Quand je comprends qui Jésus est, quand je me saisis de sa promesse, alors la puissance de Dieu agit dans mon cœur. Alors que nous enseigne le deuxième signe? Le premier montrait que Jésus a le pouvoir de changer la nature des choses. Le deuxième signe a pour but de mettre en évidence le pouvoir de sa parole. Quelle que soit la distance qui nous sépare de Jésus, la parole de Dieu a le pouvoir de nous sauver, de nous guérir, de nous relever, de nous restaurer. La parole de Jésus est la parole de Dieu. Jean nous dit, c'est cette parole que nous vous annonçons. C'est ce témoignage que nous vous demandons de croire. Dans Ésaïe 55, verset 11, il est dit, la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. De quoi avons-nous besoin? Eh bien, nous avons besoin de comprendre vraiment qui est Jésus. Ça, c'est la première chose. Il n'est pas simplement un homme, un prophète, un faiseur de miracles. Il est Dieu et sa parole a autorité. Tout ce qu'il dit s'accomplit et est certain. Nous avons besoin d'espérer, de vivre, de croire en Jésus dans ce monde et de nous saisir de sa parole. C'est ça qui peut nous faire avancer. C'est ça qui peut nous donner les assurances dont nous avons besoin. Et c'est ça qui peut nous donner la force de vivre pour lui jusqu'à la fin. Voilà, que Dieu nous aide et renouvelle en nous la confiance que nous avons en Jésus et en l'autorité de sa parole. C'est ce que Jésus veut pour nous. Alors, on va prier encore.